Bon, donc on a parlé des trois causes du refuge pour prendre refuge. On a parlé aussi des trois niveaux de refuge. Donc voilà. Alors ces trois niveaux, pour pouvoir vraiment prendre refuge et générer en soi un refuge du Mahayana, c'est-à-dire le refuge le plus complet, on va pas pouvoir le générer tout de suite. Il faut passer par un refuge intermédiaire. Le refuge du niveau intermédiaire, c'est-à-dire vouloir prendre refuge pour être complètement libre de la souffrance. Ça serait peut-être un peu exagéré ou un peu trop, de vouloir déjà générer un refuge Mahayana et vouloir libérer tous les êtres de la souffrance, comme ça, c'est beau, c'est très beau, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'on a vraiment ressenti ce véritable besoin de se libérer de la souffrance? Donc je pense qu'il faut d'abord, pour vraiment générer le refuge Mahayana, commencer par générer un refuge plutôt de niveau intermédiaire, donc qui consiste à vouloir être complètement libre de toute souffrance. Ça, c'est déjà énorme, parce qu'on n'a pas cette pensée, en fait. On est tellement focalisé. On est un peu comme ces mouches là qui vont directement vers la lumière, hein, et qui foncent vers la bougie, là, ces papillons de nuit là, ils veulent absolument le bonheur tout de suite, ils foncent vers l'objet, et puis on se fait cramer. Et donc justement, il faut réfléchir à ça et prendre un petit peu de recul et voir qu'on veut vraiment, ce qu'on veut vraiment, c'est être libre de toutes les souffrances et en être complètement libéré, être complètement libéré du samsara, hein, en fait. Bon, ça, on verra plutôt à partir de quand on reprendra en septembre, en octobre plutôt. On aura tout un module sur le samsara, sur ce que c'est. Donc, on aura vraiment l'occasion d'en parler. Juste pour dire quelques mots sur le samsara. Le samsara, c'est pas un état extérieur. Hein. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est pas un lieu. Hein. C'est pas un lieu extérieur. C'est notre esprit. Hein, le samsara. On en revient encore là. Hein. C'est notre état d'esprit qui est contrôlé par les perturbations mentales et par le karma. C'est ça le samsara. Hein, c'est, voilà. Donc le refuge de niveau intermédiaire donc consiste à aspirer, à vouloir être complètement libre de cet esprit samsarique. Hein, pas du lieu, pas d'un lieu quelconque, mais d'être libre, d'être affranchi, on pourrait dire, de cet esprit samsarique, qui nous fait croire que le bonheur, on va le trouver dans les perturbations mentales. C'est pas possible. Hein, il faut d'abord éliminer les perturbations mentales pour trouver le bonheur. Hein. Donc, voilà, vouloir être complètement libre de l'esprit samsarique, qui est contrôlé par les perturbations mentales et par le karma. Et en fait, quand on parle de samsara, c'est pas simplement notre esprit, c'est aussi notre corps. Parce que ce corps que l'on a actuellement, on l'a pris avec un esprit samsarique. C'est-à-dire, c'est les graines qui étaient dans notre esprit qui se sont matérialisées sous la forme de ce corps aussi. Donc même notre corps aussi est samsara. Hein.
Donc quand le corps souffre, c'est samsarique.
Ben oui, bien sûr, forcément. Hein. Donc quand on parle de samsara, ça inclut à la fois l'esprit et le corps. Puisque le corps est lui aussi produit par les... Le corps est le produit des perturbations mentales et du karma. C'est pour ça qu'on a tous des corps différents. Hein. C'est pour ça. Le corps correspond à notre karma et à nos perturbations mentales. Et notre esprit aussi. En fait, peut-être... oui. Donc, et pour pouvoir développer ce niveau moyen, ce niveau intermédiaire de refuge, hein, il faut commencer par développer aussi le refuge de base. C'est-à-dire de redouter les pires souffrances. Donc c'est pour ça que c'est important, comme je disais tout à l'heure, de méditer sur les souffrances des mondes inférieurs. Parce que donc, ça fait partie donc, de cette manière de produire le refuge. Hein. Et redouter les pires souffrances qui pourraient nous arriver. Si. Et vouloir en être libre de toute forme de souffrance, même des plus difficiles, des souffrances des enfers, par exemple. Donc, à partir de ce désir de vouloir être libre de la souffrance, de toutes les souffrances, du samsara et des souffrances mondes inférieurs, donc on va générer cette confiance dans le Bouddha, cette conviction que le Bouddha que l'esprit du Bouddha existe, hein, qu'il y a, il est possible donc de devenir éveillé, hein, que cet esprit est libre de toutes les de toutes les de tous les défauts, qu'il possède toutes les qualités. Et donc, puisque l'enseignement du Bouddha vient d'un esprit qui est complètement libéré de tous les défauts, qui possède toutes les qualités, l'enseignement du Bouddha est parfait. Voilà. Et on peut lui faire confiance totalement. Ouais, comment analyser le refuge ? Le refuge ne va pas venir tout seul. Il faut l'activer, il faut le générer, il faut y réfléchir, il faut prendre les causes, les conditions, les liens, comme ça. Hein, voir comment ça se vit, c'est quelque chose de vivant, quelque chose d'organique, hein, un petit peu. Et donc, on continue. Et donc, de ce fait, les grands pratiquants aussi, les grands adeptes du Bouddha, les pratiquants réalisés, les maîtres réalisés, sont aussi donc des refuges fiables, puisqu'ils suivent ces méthodes-là. Donc plus on va avoir ce sentiment de cette conviction donc dans le Bouddha, le Dharma et Sangha, plus on va se sentir encouragé à pratiquer. Plus on va avoir foi dans la pratique aussi. Et donc en pratiquant, on va devenir libre de la souffrance, comme on dit, et en tout cas on aura moins de souffrance, hein, parce qu'on créera moins de causes de souffrance et on créera plus de causes de bonheur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'était par rapport aux souffrances. Je vais juste pour donner une citation quand même de Rinpoche, de Lamassopa Rinpoche. Une fois qu'on a vu que nous souffrons, en fait, que nous sommes dans la souffrance, nous avons besoin de trouver une porte de sortie de la souffrance. Hein. Une fois qu'on a fait ce constat de souffrance, c'est bien beau. Hein, de faire ce constat qu'on est à la souffrance. Mais il faut aussi, après, l'étape suivante, c'est vouloir en sortir. C'est ça qu'on doit... C'est là où le refuge intervient. Vouloir en sortir et rechercher activement cette porte de secours. Alors là, quand on analyse, justement, on peut voir qu'actuellement, en fait, personnellement, on n'a pas la capacité de se libérer soi-même de la souffrance. Parce qu'on a des tendances, hein, des tendances aux toutes sortes d'afflictions. On a trop de perturbations mentales pour trouver la sortie par nous-mêmes. On a trop de perturbations mentales. On va reproduire les mêmes erreurs. On va penser que là, c'est bon, alors qu'en fait, c'est encore erroné. Parce que nos tendances nous font croire que c'est comme ça qu'il faut, qu'on a raison, que c'est comme ça que ça fonctionne, et que si on fait ça, eh ben, on va être heureux. Ben non, c'est encore une forme d'attachement à ses propres méthodes personnelles qu'on juge aptes à nous délivrer. Et c'est là où ça ne marche pas. Donc on a trop de perturbations mentales pour trouver la sortie par soi-même. Et c'est pour ça qu'on a besoin de refuge, en fait. Vous voyez le truc, hein. Donc nous sommes trop perturbés pour trouver par nous-mêmes la porte de sortie de ce labyrinthe de perturbations mentales. C'est comme si nous étions prisonniers d'un labyrinthe et on tourne en rond, en fait. C'est ça, le samsara. Hein. C'est tourner en rond dans notre esprit, dans les multiples rouages de notre esprit, à droite, à gauche, et on cherche une sortie par nous-mêmes. Et le refuge commence à partir du moment où on dit « j'arrête ». De vouloir trouver la sortie, c'est moi qui sonne. De vouloir trouver la sortie par moi-même, ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Donc, je fais confiance dans un refuge parfait qui va m'aider à trouver la sortie, à condition que j'applique ces instructions. Donc, dans le refuge, il y aura certaines instructions à appliquer. Des instructions de base, etc. Des préceptes de refuge qu'il faudra essayer d'appliquer si on veut s'en sortir. Et pas faire confiance uniquement à nos propres idées, à nos propres sentiments, etc. pour en sortir. Donc, ça fait déjà une preuve d'humilité, déjà, hein, dans le refuge. C'est-à-dire qu'on renonce à penser que l'on est capable de s'en sortir par soi-même. Pas évident. Au niveau de l'orgueil, pas évident.
Et c'est logique aussi dans la démarche, puisque de toute façon, on doit faire acte de confiance. Et si obligatoirement, on est obligé, enfin, ça nous oblige à cet acte de confiance. Sinon, si on avait la réponse toute faite en nous, eh bien, jamais on aurait besoin de faire cet acte de confiance. Donc, c'est logique.
Si vous allez voir un psychanalyste, c'est pareil. Si vous faites confiance en quelqu'un parce que vous avez reconnu votre souffrance, vous vous en remettez entièrement dans ses mains ou dans un psychologue, parce que vous avez une confiance. Et vous reconnaissez que par vous-même, vous n'y arriverez pas, parce que votre esprit vous joue des tours. Alors qu'un psy, il connaît les... Il sait par où ça passe, il sait comment on peut sortir cette espèce de spirale dans laquelle on... C'est ça le samsara, c'est cette spirale psychologique dans laquelle on tourne en rond, quoi. Et il faut sortir de ces spirales. Il y a des psys qui sont très très bons, en général, ils sont formés pour ça, pour nous faire déconstruire cette spirale et en sortir. Le refuge marche aussi de cette façon-là. Il y a un aspect très psychologique dans le refuge. Je continue avec ma citation de Lamazo Parinpoche. Donc, on disait qu'on était trop perturbés pour trouver nous-mêmes la sortie dans ce labyrinthe de perturbations mentales. Nous sommes aveugles et nous cherchons une route, un chemin vers la sécurité. Mais nous ne savons même pas ce que c'est que la sécurité. Nous ne sommes même pas sûrs de savoir ce que c'est. Parce que l'idée qu'on se fait de la sécurité ou du secours, en fait, c'est encore une idée que l'on se fait soi-même. Ce n'est pas forcément comme ça que le Bouddha le voit. Et lui voit, enfin, le maître ou le Bouddha, exactement ce que c'est, ce qui va nous délivrer. Nous, ce qu'on prend peut-être pour une délivrance, ça va nous enfermer encore plus. C'est là où c'est subtil. C'est là où c'est très subtil, parce que il faut vraiment quelqu'un d'omniscient pour nous montrer que la délivrance est là, alors qu'on l'a pas vu, pas forcément en tout cas. On aurait plutôt pensé que c'était là pour nous, parce qu'il y a l'ego qui est là. On a plutôt envie de faire des choses qui correspondent à notre ego. Mais le Bouddha va faire exactement l'inverse. Un maître spirituel, en l'occurrence, va faire exactement l'inverse. Il va vous montrer que pour sortir de ce labyrinthe, il faut que vous fassiez quelque chose qui soit complètement contraire à votre ego. Et ça, on n'a pas envie de le faire. Bien sûr. Donc, il faut que... Voilà, c'est en ça qu'on a besoin d'un refuge extérieur aussi. Quelqu'un qui nous sorte des rouages de notre ego pour nous amener vers le non-ego.
Donc, la méditation ne suffit pas.
La méditation, c'est énorme. Ça dépend ce qu'on fait pendant cette méditation. Si, la méditation, c'est... Il n'y a pas que méditation, il y a écoute, il y a réflexion et méditation. Il y a les trois. Tout à fait. Mais la méditation fait partie de la méthode, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. À condition d'appliquer comme il faut la méditation. De ne pas simplement rester comme ça, en attendant que ça se passe. Il y a des gens qui pensent que la méditation, c'est ça. Hein.
Non, mais qu'elle est bien écoutée.
Si elle est bien exécutée, elle suffira.
Elle a besoin de prendre
refuge. comment vous allez savoir quelle méditation il faut faire? Vous allez faire spontanément peut-être une méditation qui plaît à votre ego. Vous allez méditer sur quelque chose qui est plus, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous plaît. Oui, mais bon, chaque fois quand on est au niveau des avancée du Peba, Geshe Loden passe une heure avant de commencer son enseignement pour nous replonger dans les pratiques de base que l'on a survolées, parce que notre ego a plutôt envie de faire des pratiques plus avancées, et il nous ramène chaque fois aux pratiques fondamentales sur l'impermanence, sur la mort, tout ça, qu'on n'a pas trop envie de faire, parce que voilà, on a envie de faire des choses... plus agréable, ou je ne sais pas, qui nous plaisent plus. Et on a tendance à sauter des pratiques qui paraissent peut-être difficiles. Donc même la méditation, oui, c'est bon, à condition de revenir au refuge, par exemple. Et le refuge, c'est une manière, justement, de ne pas aller trop loin, trop vite, et prendre des voies qui ne nous amèneront nulle part. Quoi. Je continue. Hein. Donc on est aveugle, et donc on ne sait même pas ce que c'est qu'en fait que cette sécurité que l'on recherche, cette liberté. Donc on ne peut même pas résoudre nos propres problèmes mondains. Hein. Il dit même pas les problèmes spirituels, mais nos problèmes mondains qui remplissent notre vie quotidienne. Nous n'arrivons pas à les résoudre par nous-mêmes. Encore moins la souffrance, cette souffrance des mondes inférieurs qui menace de nous engouffrer au moment de la mort. Nous avons besoin de l'aide de quelqu'un qui ne va jamais nous laisser tomber. Voilà. Nous avons besoin de l'aide de quelqu'un qui ne nous laissera jamais tomber. J'avais tendance à ne pas prendre les micros, là. Alors, je vais revenir à la source. Prenez les micros, mais merci. Les religions.
Mais c'est pour ça que toutes les religions ont été créées, parce que c'est la sécurité. On se met en sécurité dans quelque chose de plus haut que nous, de sûr, que l'on estime sûr.
Créé, oui. Enfin, est-ce que le bouddhisme a été créé ? Oui, je ne sais pas si ça a été créé ou pas.
Je ne sais pas.
En tout cas, ça n'a pas été inventé par le Bouddha. Il a juste il explique ce que c'est que la réalité, en tout cas. Ouais. Une chose intéressante, ça me fait penser que religion, on retrouve la même racine dans le mot tche en tibétain, qui veut dire religion, et le mot religion en latin, religare, hein, c'est ça, qui veut dire relier ou relier. Et ça nous relie, finalement, à quelque chose qui nous... Le bouddhisme dit, ça nous relie, le refuge, à quelque chose qui nous soutient et qui ne nous laissera pas tomber. Si on a cette confiance. Tous les autres refuges peuvent nous laisser tomber. Les autres refuges mondains qu'on a pu essayer sont pas fiables. Ils peuvent nous laisser tomber à un moment donné. Le dharma, non. C'est vous qui décidez de le laisser tomber. C'est comme un maître spirituel. Un maître spirituel ne vous abandonnera jamais, un vrai. C'est vous qui décidez de passer à autre chose, mais le maître, non. Et la religion, enfin, le dharma, c'est cette méthode, en fait, ça, le Bouddha aussi, ne va jamais vous laisser tomber. Donc, c'est pour ça qu'on parle de... le bouddhisme est une véritable protection, un véritable refuge. J'en arrive à ça justement. Bouddha, Dharma, Sangha. Le Bouddha, alors quel est le véritable refuge ? Il y en a trois. Je veux dire. Est-ce qu'on en a besoin des trois ou un seul suffit ? Alors, le Bouddha, est-ce que c'est le Bouddha ou est-ce que c'est le Dharma le véritable refuge pour vous, d'après vous ? C'est les deux ? Facile ça. Hein ? Comment ? C'est le dharma plutôt. C'est les enseignements. Pour nous, c'est vraiment le véritable refuge. Oui. C'est le dharma. C'est celui auquel nous pouvons accéder, en tout cas. Le Bouddha, c'est le refuge absolu, si vous voulez. Mais difficile d'y avoir accès. C'est plus difficile, en tout cas. Mais on pourrait dire que c'est vraiment le refuge absolu. Parce que sans Bouddha, il n'y a pas de dharma. Et sans dharma, il n'y a pas de sangha. D'accord ? Et je crois que c'est là-dedans qu'il le dit. Parle du le Bouddha, le refuge absolu, parce que le Bouddha, justement, ne peut pas nous... le dharma, une fois qu'on est arrivé au bout, qu'on est arrivé au terme du dharma, qu'on a bien pratiqué, qu'on est arrivé à l'éveil, ben, le dharma, on n'en a plus besoin. On est au-delà de l'apprentissage. On est passé au-delà de l'apprentissage. On n'a plus besoin du dharma. C'est comme un bateau qui vous aide à traverser une rivière. Une fois que vous êtes de l'autre côté, vous ne transportez pas le bateau encore avec vous. C'est fini. Le dharma vous a aidé à franchir la rivière et puis vous êtes libéré, vous laissez tomber, parce que vous êtes Bouddha à ce moment-là. Donc on abandonne le dharma, on abandonne entre guillemets, c'est-à-dire on n'en a plus besoin, mais le Bouddha non, puisqu'en fait on est Bouddha à ce moment-là. Donc c'est en ce sens-là que le Bouddha est le refuge absolu. Et c'est le refuge absolu parce qu'aussi son esprit est libre de toutes les imperfections. Donc on dit que c'est... la forme absolue qui possède toutes les qualités encore. Et donc, un Bouddha ne fait que le bien. Mais ça, c'est inaccessible pour nous, quelque part. On peut l'avouer de le dire, ok, c'est gentil, ben, c'est bien. Tandis que le dharma, ben, c'est le refuge pour nous, c'est ça qui va être le véritable refuge. Et en prenant refuge dans le dharma, ben, forcément, on va prendre refuge dans le Bouddha et dans les autres. Donc, pour nous, c'est pas le dharma n'est pas le refuge absolu, je dirais, mais pour nous, c'est le véritable refuge. C'est le refuge auquel nous pouvons accéder. Celui qui va nous sortir de la souffrance. Si le Bouddha pouvait nous sortir de la souffrance, il l'aurait déjà fait. Il nous aurait sortis. Mais il dit dans les textes, le Bouddha ne peut pas nous éliminer nos souffrances comme on élimine une épine d'un doigt, par exemple. ou comme on lave le linge sale en éliminant la saleté. Ça ne marche pas. Donc, mais comment ils peuvent nous libérer ? Par le dharma. En enseignant la méthode. Et donc c'est grâce à ça, justement, qu'on va être libéré. Donc celui qui va nous sortir vraiment de la souffrance, qui va nous faire accéder à la cessation de la souffrance, en empruntant la voie, donc c'est le dharma, à condition, bien sûr, de le mettre en pratique. Donc on pourrait dire que le dharma, c'est le véritable remède. On trouve ça comme analogie, que le Bouddha, finalement, c'est le docteur, c'est le médecin, mais ce n'est pas le médecin qui nous guérit. Le médecin, il nous donne le remède. Après, si le remède, on le laisse dans le tiroir de la pharmacie, ça va rien faire. Il va falloir utiliser, il va falloir l'appliquer, il va falloir le mettre en pratique. Et c'est ça qui va nous conduire au bonheur. C'est uniquement ça. Ce n'est pas le Bouddha. Le Bouddha, il voit nos problèmes, il voit nos souffrances. Et il nous donne la méthode pour en sortir. À nous, maintenant, d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est la mettre en pratique. Personne ne s'est guéri d'une maladie simplement en lisant l'ordonnance. Donc c'est pareil avec les enseignements. Si vous les lisez, c'est très très bien, c'est très beau, mais on a plein de beaux livres avec plein de choses, et traiter la continuité suprême. Ok, mais si on ne les applique pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Donc c'est en ça que le dharma va être le refuge ultime. Le refuge véritable, celui qui va nous conduire au bonheur, à condition de le mettre en pratique. Donc là encore, il n'y a rien de magique dans la prise de refuge. J'insiste bien sur ce côté, ne pas penser que parce que simplement le fait de réciter une formule, on va être libéré de la souffrance. Non, c'est en appliquant les enseignements. Donc, en appliquant les enseignements. Et quel est l'enseignement le plus important du Bouddha ?
Compassion.
Qui dit compassion ? Oui. Bodhicitta, vacuité.
Ne pas nuire.
Ne pas nuire. Oui, ne pas nuire, oui. Oui, ça touche, bien sûr. Tout ça, c'est juste. Tout ça, pour certains, c'est ça, chacun a son idée. Voilà. Pour certains, ça va être la compassion, pour d'autres, ça va être la bodhicitta. Mais je pense que l'enseignement fondamental du Bouddha, c'est le karma, c'est la loi de causalité. Parce qu'on le retrouve ça dans tous les enseignements du Bouddha, tous, même dans la vacuité. Vous pouvez pas, la vacuité, c'est surtout pas nier le karma. Vous devez allier le karma et la vacuité. Dans la bodhicitta, c'est la vacuité. Pour atteindre l'éveil, c'est le karma. Pour atteindre l'éveil, c'est le karma. Vous ne pouvez pas atteindre l'éveil sans faire référence au karma. Parce que le karma, c'est ça qui va faire que, comme vous dites, vous n'allez pas nuire aux êtres, donc vous allez pratiquer l'éthique. Mais pour vraiment pratiquer l'éthique, en pratiquant l'éthique, vous allez développer de la concentration. Et grâce à la concentration, vous allez développer de la sagesse. Grâce au développement de la sagesse, vous allez réaliser la vacuité. Donc tout ça, à la base, c'est cause à effet. Cause à effet. L'éveil ne vient pas tout seul, il vient de causes antérieures. La cause de l'éveil, c'est la bodhicitta. La bodhicitta ne peut pas venir sans la compassion, etc., etc. Et la compassion ne peut pas venir sans les êtres, sans penser sans réfléchir à la souffrance. Et réfléchir à la souffrance, c'est réfléchir au karma. Donc le karma, c'est vraiment, vraiment l'enseignement pour moi, l'enseignement fondamental. Je pense qu'il met tout le monde d'accord. Puisqu'on le retrouve vraiment dans... Il contient tous les autres enseignements, en fait, le karma. Donc c'est vraiment... Et c'est un enseignement inépuisable. On peut toujours y réfléchir sur le karma. Tous les maîtres ont des exemples, enseignent sur le karma. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et méditer sur la vacuité en oubliant le karma, ça peut être très dangereux. Parce que vous pouvez tomber dans une forme de nihilisme où rien n'existe. Pensant que la vacuité, c'est un néant absolu où il n'y a rien. Même le karma n'existe pas. Et là, c'est fini. Vous pouvez dire adieu à l'éveil. Vous avez fait complètement fausse route. Donc, c'est même dans des moments extrêmes de perception de la vacuité, il y a encore le karma qui fonctionne. Le karma est encore là. Et c'est ça qui fait dire à Lama Tsongkhapa, quand il fait l'éloge du Bouddha Shakyamuni, dans un texte assez beau, hein, qu'on récite de temps en temps, assez souvent ici d'ailleurs, c'est un texte de Tsongkhapa qui s'appelle « L'hymne au Bouddha Shakyamuni pour avoir enseigné la production interdépendante », c'est-à-dire montrer que la vacuité est liée à la production interdépendante. C'est la même chose, en fait. C'est parce que les phénomènes sont des phénomènes régis par la loi de causalité qui sont vides d'existence en soi. Et parce qu'ils sont vides d'existence en soi, ils sont régis par la loi de causalité. Donc, bon, ça, on en verra plus tard quand on fera un module sur la vacuité, ce qui n'est pas tout encore là, mais justement, juste pour vous montrer que c'est ça. Donc, le véritable refuge dans le dharma, le conseil principal du Bouddha, finalement, ça va être quoi ? Ça va être appliquer la loi du karma, du causalité. Attention, faites attention à la loi de causalité. Ne négligez jamais la loi de causalité. Et c'est ça vraiment le refuge. Le véritable refuge dans le dharma, c'est prendre refuge dans la loi de causalité. Et si vous prenez refuge dans la loi de causalité, vous ne pouvez pas vous tromper. Pas possible. Vous pouvez vous tromper en méditant sur la vacuité, ça c'est sûr. Vous pouvez vous tromper sur plein de choses dans vos méditations, mais pas là-dessus. Pas possible. Hein ? Impossible. Donc c'est lui qui va éliminer en fait l'attachement au bonheur immédiat. Hein ? Par exemple, en méditant sur le karma, bien, on va méditer aussi sur le renoncement, forcément. Hein ? Puisqu'on voit que ce qu'on prend pour du bonheur, ça amène de la... Ça amène de la souffrance. Donc, c'est une réflexion aussi sur les causes et les effets. Les effets, qu'est-ce qu'on a maintenant comme résultat ? D'où viennent les souffrances que l'on a ? Elles viennent de certaines causes. Comment est-ce qu'on va éliminer ces causes ? Donc, c'est ça le refuge, en fait. C'est vraiment ça, le refuge dans le dharma, en tout cas. Et le refuge dans le dharma, c'est pas... l'application du refuge, elle est vraiment là. Arrêter de nuire aux êtres et pratiquer la bienveillance. Et ça, donc, va faire que le karma va être de plus en plus vertueux et que l'on va avancer vers l'éveil. Donc c'est ça le refuge, si vous voulez, le refuge fondamental, c'est d'être attentif à la loi de causalité. Et Lama Tsongkhapa dit, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel texte, il dit que c'est ça la vraie pleine conscience. On parle beaucoup de pleine conscience maintenant, hein, la pleine conscience, être vigilant, être attentif. Mais que la vraie pleine conscience, c'est d'être attentif à la loi de causalité. C'est pas... parce que la loi de causalité, elle est associée, elle est teintée à l'éthique. Sinon, la pleine conscience, elle n'est pas forcément teintée à l'éthique. On peut faire tas de choses avec une pleine conscience. On peut faire des actes très négatifs avec une pleine conscience. On peut faire du mal aux autres avec une pleine conscience. Ce n'est pas parce qu'on pratique la pleine conscience que ça va vers l'éveil, que ça va vers la libération. Non, ça va vers rien du tout. Tout dépend comment on l'utilise. Tandis que la pleine conscience, être attentif à la loi de causalité, c'est une pleine conscience parce que elle est teintée d'éthique. Et on voit tout de suite donc, ce qu'elle amène. On va naturellement s'abstenir des actes négatifs et naturellement accomplir des actes positifs. Et c'est ça qui va être le véritable refuge, parce que ça va être la véritable protection. Vous allez être protégé. Si vous appliquez cet enseignement de base du Bouddha, c'est-à-dire donc s'abstenir des actes négatifs et accomplir des actes positifs, vous êtes automatiquement protégé. Et c'est ça le refuge. C'est ça le véritable refuge. Le refuge de la véritable protection, en tout cas. Ce que signifie le refuge, hein, le mot refuge. Donc en fait, le refuge, c'est un processus dynamique. Hein. C'est vraiment ça que j'essaye de vous montrer, que ce n'est pas un état où on croit à la magie du truc, mais que c'est un état dynamique, un état actif, qui demande des efforts au quotidien. Être attentif à ses actes, à ses paroles, à ses pensées, hein, à son karma, hein, au quotidien, à chaque instant. Donc à chaque instant, finalement, on prend refuge. Chaque instant où l'on est attentif à ses actes, à ses paroles, à ses pensées, c'est comme si on prenait refuge dans la parole du Bouddha, dans ce que le Bouddha nous demande de faire. Voilà. Et donc c'est en ça que le refuge fonctionne. C'est ça le mode de fonctionnement du refuge. C'est dans la mesure où on applique la loi de causalité. Et le dernier point que je veux avant qu'on termine, donc ce refuge, vous voyez que ce refuge extérieur, quand on croit au Bouddha, aux enseignements, va nous amener de plus en plus à un refuge intérieur. Et au bout du compte, c'est en ça que nous devons trouver refuge. La loi de causalité nous amène bien à ça, justement, à trouver en nous le véritable refuge. On parle dans certains enseignements de la bonté fondamentale, ou de la nature de Bouddha, comme vous voulez. Enfin, Shogyam Trungpa utilise beaucoup ce terme de bonté fondamentale, basic goodness en anglais. Il utilise. Cette bonté fondamentale qui est en nous. C'est à ça que nous amène le refuge intérieur. Si vous voulez, que le refuge extérieur, le Bouddha, va nous donner confiance dans le potentiel de notre esprit, dans notre propre bonté fondamentale. Et dans quoi est-ce qu'on prend refuge à ce moment-là? On prend refuge dans notre capacité d'être bénéfique aux autres et de ne pas leur nuire. C'est ça le refuge. Hein, prendre confiance dans cette capacité-là, hein, cette conviction, cette confiance en soi, hein, que l'on est capable de faire le bien. Ça, on en doute un petit peu qu'on soit capable de faire le bien. Hein, on se dévalorise tellement, en général, donc notre capacité à faire le bien, elle passe un peu à la trappe, quoi. Le refuge va nous donner ça, cette confiance dans notre capacité à faire le bien et à éviter de nuire aux autres. Confiance aussi dans notre discernement. On va développer de plus en plus de discernement, de voir qu'est-ce qu'il est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire. Ça fait partie du refuge aussi. Le refuge va amener le plus en plus de discernement. On va discerner le bien du mal, en quelque sorte. Même si ultimement, il n'y a ni bien ni mal, mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas encore là. Au niveau de la pratique quotidienne, il y a le bien et le mal. Il y a ce qui est positif, ce qui amène du bonheur, et ce qui est négatif, ce qui amène de la souffrance. Ça fonctionne. Ça, on ne peut pas le nier, hein, au niveau du karma. Donc, cette sagesse immédiate, c'est ça que j'appelle le discernement, hein, cette sagesse immédiate, aussi qu'elle utilise le mot de Yamayeshe, qui est là. Et donc, chaque fois que nous reconnaissons en nous, cette sagesse immédiate, cette bienveillance, cette bonté fondamentale qui sont en nous, ben en fait, nous prenons refuge. Et c'est ça la véritable protection. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce n'est pas très mystique, finalement, le refuge. Oui.
Oui, j'avais une question, Christian.
Oui.
Puisqu'on prend refuge dans le dharma, quelle est la différence fondamentale entre le dharma et le lamrim?
Le lamrim fait partie du dharma. Le lamrim, c'est simplement un texte qui a été composé, qui a été écrit par Lama Tsongkhapa, où il explique le dharma. Il explique les pratiques. Toutes les pratiques qu'on fait dans le lamrim, toutes les méthodes qui sont exposées dans le lamrim, c'est le dharma. Donc, si vous prenez refuge dans le dharma, vous prenez refuge dans le lamrim aussi, si vous voulez. Si c'est ça votre ouvrage principal, par exemple. C'est le lamrim étant une voie progressive qui mène à l'éveil. Donc, c'est un texte. Hein. Il y a d'autres lamrim qui n'ont pas été composés par Lama Tsongkhapa. De nombreux maîtres ont composé des lamrim. Ça veut dire simplement voie progressive. C'est une voie. Hein. C'est la voie vers l'éveil. Donc le lamrim fait partie, bien sûr, du dharma, fait partie de la méthode.
Ok, merci.
Voilà.
J'ai une petite question sur le renoncement.
Oui.
Quand on lit certains textes, alors ce sont des textes qui ont été écrits il y a très très longtemps. Mais il est souhaitable de se retirer, de quitter son propre pays, donc de quitter également les siens, ceux qu'on aime, son épouse, ses enfants. Alors le renoncement sur les choses matérielles, ça j'ai du mal j'ai la facilité à l'entendre, mais le renoncement envers les êtres chers, c'est beaucoup plus compliqué. Alors est-ce que c'est un petit peu revu et corrigé par rapport à notre époque, ou c'est tout de même
Non, en fait, le renoncement, c'est renoncer à la pensée que ces êtres chers vont vous apporter un bonheur absolu. C'est ça, le renoncement. C'est de ne pas
c'est
investir.
Ça, le renoncement. Oui. D'accord.
C'est ne pas investir dans ces êtres, dans ces choses-là, un salut ou un démesuré, enfin, tout ça. Hein.
D'accord. Après. Il est quand même recommandé dans certains textes, enfin, mais là, oui. Ça s'adresse peut-être aux moines. Enfin,
voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, oui. un exemple de renoncement, c'est prendre les vœux de moine. Vous renoncez à tout ce que à toute vie affective, disons, enfin affective, je ne sais rien, une vie en tout cas familiale, disons. Mais en fait, vous vivez dans une communauté. C'est comme si c'était une famille aussi. Hein. Donc, vous retrouvez. On ne peut pas échapper quelque part à la société.
Oui.
Hein. Je pense qu'on ne peut pas. Même si vous vivez dans une communauté monastique, vous retrouvez des tâches, des activités qui sont communautaires, quoi. Donc forcément sociales. C'est plus facile, vous allez me dire, parce que vous avez moins de contraintes au niveau familial, vous n'avez pas d'enfants à vous occuper, vous n'avez pas à payer vos impôts, vous n'avez pas à entretenir la voiture, il y a plein de choses que vous n'avez pas à faire. Vous avez plus la chance, si vous voulez, de vous concentrer uniquement sur la pratique et sur les enseignements. Donc ça vous donne des conditions extérieures qui vont favoriser, si vous voulez, votre engagement dans la voie spirituelle à ce niveau-là. Mmh. Mais vous pouvez être attaché à votre robe de moine. voilà d'autres choses quand vous êtes moine. Hein. C'est pas parce que vous êtes moine que vous avez coupé tout attachement. Mais ça aide, ça aide beaucoup, bien sûr. Ça aide beaucoup, ça aide énormément.
Mais pour nous, dans nos sociétés, c'est donc d'imaginer que... Enfin, de ne rien espérer de nos proches, c'est ça finalement. Enfin, de pas d'être persuadé qu'ils vont pas
attention,
nous apporter
bien sûr,
le bonheur.
Attention, nos proches sont là aussi pour nous aider. On est là aussi pour les aider. Il y a on peut pratiquer avec ses proches. C'est des objets aussi de pratique, des supports de pratique ou un nombre. Donc, c'est très utile aussi. Hein. Faut pas non plus négliger. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ne pas investir affectivement trop de choses avec trop d'attachement. Voilà. C'est ça qu'il faut éviter de faire. Hein. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ne pas les aimer, évidemment. Il faut les aimer. Mais pas avec un attachement démesuré parce que, en investissant trop quoi, sur eux. Hein. Puisque ce n'est pas le véritable refuge. Hein. Ça peut être un refuge... temporaire, bien sûr, quand on est, c'est bien d'avoir une famille, d'avoir un certain refuge, on a un certain bien-être, et s'il y a une harmonie dans la famille, c'est formidable, c'est excellent. Et si on entretient cette harmonie, c'est excellent aussi. Mais après, s'il y a un petit problème de disharmonie, il ne faut pas non plus que tout s'effondre, quoi. Voilà. Ou s'il y a un petit problème qui s'élève. Hein. Mais bon, ça, c'est. Voilà, c'est.
Non, mais c'est une nuance intéressante sur la notion de renoncement.
Après, bien sûr, dans les textes, si on lit Milarepa, bien sûr, lui, il avait renoncé à tout. Il s'est enfermé dans une grotte, il mangeait que des orties. Il avait renoncé à tout, il n'avait rien, il ne possédait absolument rien. Au XIe siècle, c'était tout à fait possible. Si vous faites ça, vous allez voir, ça ne va pas être facile, hein.
C'est même pas envisageable,
pour certains, c'est pas envisageable. Pour certains, c'est un grand rêve, et pour certains, c'est pas envisageable. Et même pour certains, si c'est un grand rêve, souvent, vous emmenez avec vous vos problèmes dans la grotte. Hein. Vous ne les laissez pas chez vous. Hein. Donc, vous recréez, c'est très difficile. Hein, il vaut mieux commencer par des choses, justement, plus à notre portée que des choses un peu difficiles. Mais souvent, ces textes, comme vous le dites, ont été écrits au XIe siècle, dans une grande période de grands yogis tibétains qui étaient très, très. Qui avaient une foi totale dans les enseignements qui venaient de se répandre au Tibet, qui avaient été. C'est vraiment la période la plus yogique, je trouve, et la porteuse au niveau, justement, du renoncement, dans ce sens-là, justement, de renoncer à son pays, à sa patrie, à sa famille, enfin, à tout, quoi. Faire comme Milarepa. Mais à notre époque, je pense qu'il faut l'actualiser, comme vous dites. Ce n'est pas renoncer en des choses extérieures, c'est renoncer en l'attachement intérieur que l'on a pour ces choses-là, qui est important. Parce que si vous renoncez à ça, après, tout va bien, vous pouvez aller n'importe où. Hein. Alors que si vous allez dans une grotte en étant encore attaché à des tas de choses, ça va être très, très difficile. Hein. Ouais. Bon, on arrête là, on fait les dédicaces, il est 17h. On prend une dédicace, page 16. Donc ce soir, on fera la pratique de Vajrasattva ensemble pour justement purifier le karma négatif. Et une des forces d'opposition dans la pratique de Vajrasattva, dans la confession, la première force, c'est le refuge, justement. Donc le refuge fait partie de cette purification. Page 16, ouais, tout le monde y est ? Gewa diye nyo do da lama sangye dro ngyone dro wa chi kyang ma Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma. Et que croisse l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho sem cho rinpo che ma ke panam ke gyo che ke panyam pa me payan gone gondu per wa shu. Tonye ta wa rinpo che ma ke panam ke gyo che ke panyam pa me payan gone gondu per wa shu. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc on dédie justement toute l'énergie positive que l'on a créée ensemble par cet enseignement de cet après-midi et ce matin, donc à notre plein éveil pour être vraiment et parfaitement bénéfique à tous les êtres, sans la moindre trace d'attachement. Et on se réjouit donc d'avoir pu passer cette journée ensemble, à essayer de développer nos qualités, à nous relier à notre potentiel d'amour, de compassion et de sagesse. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci Christian.
Si vous voulez vous joindre à nous, c'est sur Zoom, c'est sur le lien des pratiques quotidiennes pour ce soir. Ça sera à 20h. Et si vous êtes ici, ben voilà. 20h, oui.
Merci Christian.
Avec plaisir. À ce soir.
Merci.
À ce soir.
À ce soir. Si vous avez des questions, désolé, il était 17h, mais gardez-les pour demain et on essaiera d'y répondre.